Alors on va ouvrir ensemble la parole de Dieu et je vous ai reçu, on va pas tout lire, mais on va lire dans Néhémie chapitre 2 verset 11 et jusqu'au verset 17. Néhémie chapitre 2, le verset 11. Voilà ce que nous y lisons. Donc Néhémie qui va arriver, il va faire un constat. Il va dire ceci, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Et puis nous lisons dans le chapitre 3 et les 6 premiers versets, et c'est ce que j'aimerais vous parler tout particulièrement ce matin, sur ces 3 portes, et j'aimerais les détailler. Alors il nous dit ceci, Éliasap et Éliashib, le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel, à côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho, à côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mémaroth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshalam, fils de Berakia, fils de Meshazebel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Amen. Voilà, au travers bien de ces portes, comme nous l'avons dit, bien il est certain que lorsqu'on construit, on a besoin d'une porte pour y rentrer. Et là, il y avait plusieurs portes, mais nous croyons que toute construction, eh bien, si nous voulons mettre une porte pour nous, elle est toute choisie puisque cette porte, elle s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus lui-même a dit, je suis la porte. Hein, je vous apprends rien. Et nous bénissons Dieu parce que toutes les constructions, eh bien, celles qui sont construites, eh bien, avec le merveilleux Seigneur Jésus, eh bien, nous croyons que ces bâtisses, elles tiennent. Elles tiennent face à l'adversaire, face à toutes attaques de l'ennemi. Hein, nous l'avons dit il y a quelques instants. En 52 jours, eh bien, ces murailles, elles ont été bâties. Les portes, elles ont été aussi mises. Et nous croyons que cela, ça venait de Dieu. Amen. On peut dire amen à cela. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, quand on regarde la construction, bien, je dirais que c'est plus facile de construire, c'est plus facile, excusez-moi, de détruire que de construire. Vous avez remarqué, hein, comme je dis souvent, donnez-moi un bulldozer et vous allez voir, hein, moi je vous détruis, eh bien les bâtisses, il n'y a aucun souci. Mais pour bâtir, il faut du temps. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour construire, eh bien, il faut aussi tout simplement, eh bien, la grâce de Dieu. Cette grâce, eh bien, qui est là, et le Saint-Esprit qui nous anime. Parce que chacun de nous, eh bien, nous l'avons dit il y a quelques instants, nous sommes ces pierres vivantes. Et nous voulons bâtir, nous voulons construire. Il y a bien des choses qui ont été détruites, des choses qui ont été abattues. Mais nous, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous voulons bâtir avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Gloire à Dieu. Alors, le livre de Néhémie, il vient au moment où les exilés juifs, en captivité à Babylone, ont reçu la permission de retourner dans leur pays. Et la permission, elle vient de Dieu. Hein, c'est au temps voulu de Dieu que ces choses ont été faites. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que le peuple s'est détourné, ils ont été en captivité. Mais ce que je voudrais retenir ce matin avec vous, c'est qu'il y a là, eh bien, deux hommes. Le premier, c'est Esdras, et le second, donc, c'est Néhémie. Ils ne forment qu'un seul livre dans l'Ancien Testament hébreu. Et nous nous apercevons qu'ils relatent l'histoire de trois retours des exilés à Jérusalem. Et nous pouvons dire qu'Esdras, il décrit les événements associés aux deux premiers retours en 538 et 457 avant Jésus-Christ pour ceux qui veulent prendre des notes. Et puis Néhémie, il décrit le troisième retour en 444 avant Jésus-Christ. Et vous le savez que le livre d'Esdras est centré autour de la reconstruction du temple. Hein, tout doit commencer par le temple, tout doit commencer par l'intérieur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Nous n'étions pas ce temple, mais Dieu a fait de nous le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné et nous devons continuer à construire, continuer à nous édifier dans la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je peux continuer. Et puis, on peut dire que le livre de Néhémie est centré autour de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Vous voyez, quand on a construit à l'intérieur, on a besoin aussi de pouvoir édifier autour de nous. Hein, nous sommes ses témoins. Nous sommes les témoins de la grâce de Dieu. Nous sommes les témoins du Seigneur. Et nous voulons, eh bien, simplement dire que, Seigneur, par ta grâce, eh bien, nous voulons témoigner de ce que tu as fait à l'intérieur pour que nous puissions voir des choses belles, eh bien, autour de nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Alors, les deux livres soulignent l'importance d'un engagement envers Dieu et sa parole. Il ne peut être qu'un rétablissement spirituel. Voyez, on peut construire de belles bâtisses. Hein, on a visité tout autour, là, on a été à la cathédrale d'Albi. C'est beau, hein, c'est magnifique. Combien elle fait déjà? 78 mètres. J'avais le torticolis presque. C'était bien haut. Mais, voyez, et puis on est rentré à l'intérieur aussi. Et puis on n'a pas dit, oh là là, c'est, voyez, je crois qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, combien de personnes là sont sauvées? Combien de personnes? Bien sûr qu'on n'a pas le monopole, hein. Dieu connaît les cœurs. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quelquefois les hommes font des choses belles à l'extérieur. Mais à l'intérieur, peut-être c'est vide. À l'intérieur, il n'y a pas de vie. Voilà, je ne dis pas cela des églises que nous avons visitées. Je ne me permettrai pas de pouvoir juger les choses. Simplement, je dis, Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir eh bien, construire sur ce fondement eh bien, qui est spirituel. Ce fondement, Seigneur, qui vient de toi. Et Néhémie, fils de Hakalia et frère de Hanani, il était chanson du roi, voyez, quelqu'un qui servait le roi. Et Artaxerxès, c'est pas facile à dire, hein. Et vous savez que il a commencé Néhémie lorsqu'il a vu certaines personnes revenir de Jérusalem. Il a entendu l'état de Jérusalem, l'état des murailles, et il a été contrit dans son cœur. Et si vous lisez dans le chapitre premier, au verset 4 à 7, eh bien, il va dire, je pleurais, je jeûnais et je priais. Je crois que c'est exactement ce que Dieu voudrait que nous fassions. Je comprends tout à l'heure Mélanie lorsque elle a pu témoigner. Je comprends cette émotion, parce qu'on ne peut pas faire les choses en pouvant dire, eh bien c'est comme ça, mais nous avons nos tripes, et Dieu met en nous son esprit. Et quand nous voyons que les choses de Dieu, eh bien, sont détruites, quand nous voyons que les choses de Dieu n'avancent pas, eh bien, nous sommes bien touchés dans notre cœur. Dans notre cœur, il y a aussi ces larmes. Il y a aussi, eh bien, cette prière qui monte vers Dieu. Mais Seigneur, nous voulons revenir, nous voulons croire, Seigneur, que tu as aussi dans cette ville un peuple nombreux, eh bien, qui a besoin d'être racheté. Nous avons aussi, Seigneur, besoin de prier, peut-être pour des frères et sœurs qui sont éloignés, qui ont besoin de revenir, parce que ce sont nos frères et sœurs, alléluia. Et on veut croire que toutes ces choses, c'est toi et toi seul, eh bien, qui puisse, eh bien, les rétablir. Ce Néhémie, il a été nommé gouverneur de Jérusalem, dans le chapitre 2, vous le verrez, mais ce que nous remarquons, c'est sa foi, c'est son courage, son assiduité, cette persévérance. Et puis Dieu lui a donné des talents d'administrateur. C'est tout vient de Dieu, tout vient de lui, son zèle. Et mais pour le droit aussi de la justice, vous le verrez au chapitre 5. Et il renouvela l'alliance dans le chapitre 10 et son retour à Jérusalem dans le chapitre 13. Et puis, tout à l'heure on parlait de fiançailles. Mais là, si vous lisez le chapitre 13, il dit « Il annula les mariages illicites ». Vous voyez, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important, eh bien, de rappeler qu'il y a une seule pensée, c'est la pensée de Néhémie, et notre pensée à chacun de nous, c'est de reconstruire ou de construire. C'est le cri lancé, eh bien, à ce peuple. « Venez, rebâtissons ». Venez et soyons ensemble. Vous savez, je crois que le frère, quand on est frère et sœur, il peut pas y avoir un double cœur, il peut pas y avoir un double langage. Ou nous aimons, et si nous n'aimons pas, c'est qu'il y a un problème. Mais si nous sommes unis, eh bien nous pouvons bâtir, ou nous pouvons reconstruire, alléluia. Et nous savons que c'est l'aide de Dieu qui fait cela, ce n'est pas les hommes. C'est ni notre frère Laurent, ni ceux qui sont passés avant, ni moi-même, mais nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et nous le réalisons, que nous vivons des temps particuliers, des temps difficiles. C'est difficile de pouvoir bien voir une âme venir au Seigneur. Mais quand elle arrive, quand elle est sauvée, eh bien prions. Prions pour que jamais elle ne s'éloigne de Dieu. Que jamais elle puisse, eh bien, pour se dire, eh bien, maintenant, je ne trouve pas, eh bien là, ce qu'il faut, mais nous croyons que par sa grâce, eh bien au milieu de nous, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des jeunes, et nous construisons ensemble, nous pleurons ensemble, nous jeûnons ensemble, nous allons de l'avant ensemble. Et il est vrai que le problème des uns, c'est le problème aussi des autres, c'est notre problème, parce que nous sommes cette famille, et je voudrais vous rappeler que nous sommes en construction, alléluia. On n'est pas fini, la construction n'est pas finie. Nous sommes en construction, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Voilà, et ça je crois que c'est tellement important. Alors, on s'aperçoit que Néhémie, il va faire l'inspection des murailles à Jérusalem. On l'a lu dans le chapitre 2, verset 11. Il dit, j'ai passé 3 jours, je sortis de nuit par la porte de la vallée. Et cette porte de la vallée, elle m'a fait penser à la vallée de l'ombre de la mort. Je pense que hier après-midi, notre frère en a parlé, mais je pense qu'il est bon de nous rappeler que, inspiré de Dieu, le roi David a pu dire dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Je ne crains aucun mal. Et David, inspiré par le Saint-Esprit, décrit cette vallée comme une marche. Comme une marche. Vous voyez? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est une marche. Même dans la mort, c'est une marche. C'est une marche vers ce merveilleux Seigneur qui nous attend. Et nous bénissons Dieu. C'est la marche triomphante. Jésus, dans les 3 jours qu'il est passé par la mort, Eh bien, nous croyons qu'avant cela, eh bien, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et vous savez que le péché aujourd'hui encore, eh bien, ça couche les hommes. Ça les couche sans Dieu et sans espérance. Mais nous, quand nous traversons cette vallée, eh bien, même si on n'a pas encore passé, mais nous la passons par les larmes, nous la passons par les difficultés, mais un jour, nous la traverserons, et j'ose le dire, on la traversera debout. Alléluia. Notre corps sera allongé, mais nous, nous serons debout comme le Seigneur. D'ailleurs, si vous regardez la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est debout qu'il va accueillir le premier martyr qui s'appelait Étienne. Hein, c'est lorsqu'on va le lapider, eh bien, il nous est dit que le Seigneur, il vit le Seigneur debout. Alléluia. C'est formidable cela. Notre Dieu, il ne se couche pas. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu n'est pas celui qui est sourd, mais il entend. Il entend, eh bien, chacun de nous. Il entend, eh bien, notre prière. Nous bénissons Dieu. De ce que dans un autre exemple, dans Luc au chapitre 16, verset 22, il y avait ces deux personnes qui vont passer de la vie à la mort. Il nous a dit que le pauvre Lazare mourut et il fut porté, alléluia. Et ça c'est formidable, par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alors il y a l'un, eh bien le pauvre il marche, il est porté et nous bénissons Dieu. De ce que par la foi, eh bien, il va pouvoir être là au contact, eh bien, de l'amour de Dieu. Parce que je voudrais rappeler ceci, que la mort, c'est pas quelque chose, eh bien, pour le chrétien, quelque chose, eh bien, qui nous dit maintenant tout est fini. Mais au contraire, parce que nous savons quand nous fermerons les yeux ici-bas, nous les ouvrirons dans la présence de Dieu. Vous le croyez cela, hein? David, nous savons que l'apôtre Paul, il pourra le dire. Il dira ceci que mourir, c'est un gain. Parce qu'il savait, que dès qu'il allait fermer les yeux, il allait les ouvrir dans la présence de Dieu. Et nous bénissons Dieu de ce que, eh bien, le riche, il est couché dans sa mort. Et je voudrais faire remarquer que vous le lirez. C'est la seule fois où il a levé les yeux. Mais c'était trop tard. Alors disons à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont autour de nous, vraiment que nous puissions leur témoigner, pas essayer de leur expliquer qu'est-ce que c'est que Dieu, et ils ne comprendront pas, mais par contre ils pourront comprendre que vous êtes cette pierre vivante, que vous êtes de ceux et de celles qui avaient rencontré ce merveilleux Sauveur. Et nous croyons que au travers de cette parole qui est là, eh bien dans cette vallée, eh bien nous savons que le Seigneur, il a été triomphant. Amen. Il a été triomphant. Alors, la première porte que nous voyons, nous l'avons lue. Hein, j'en vais en voir trois ce matin, hein, parce que je pense que c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Il nous a dit qu'il y a la porte des brebis. Et ce qui m'a interpellé, c'est que cette première porte qui a été rétablie, eh bien, elle commence par la porte des brebis. Et la porte des brebis, c'est là où sortaient ou entraient donc ces troupeaux. Et nous savons que Dieu a voulu rétablir d'abord cette porte. Nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus a dit qu'il était la porte des brebis. Mais nous savons aussi qu'il est la brebis lui-même, puisque l'Écriture nous le dit dans Ésaïe 53, verset 7, « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » On mène à la boucherie. Et ce Seigneur, eh bien, il a pu dire, comme a dit un jour quelqu'un, quand on veut parler, eh bien, à nos semblables, il faut devenir comme eux. Et Jésus, ce humble serviteur, il s'est fait homme, il s'est fait brebis, afin de comprendre, afin de pouvoir simplement dire, eh bien, moi, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu subis, je le sais, parce que moi-même, eh bien, je suis comme toi. Bien sûr, la différence que lui, eh bien, il n'a jamais péché. Mais nous bénissons Dieu de ce que la parole de Dieu est là pour nous rappeler que dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 2, il nous a dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, vous voyez, on pourrait dire que c'était un peu la porte des délaissés, la porte de ceux qui vivaient en marge eh bien, de la société. Jésus est venu. Jésus est venu. Il est venu au lieu d'aller à la fête, il est venu là, à cette piscine, en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et il est venu dans mon cœur de dire, mais comme des brebis sacrifiées, ils sont en attente d'un mouvement, ils sont en attente. Vous connaissez le texte, de temps en temps, hein, je ne vais pas vous expliquer ce matin parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, de temps en temps, il y avait un ange qui descendait, et le premier qui descendait était guéri. Vous voyez, ce sont des mystères de Dieu, mais ce que nous pouvons voir, c'est que le Seigneur, lui, il est venu, et c'est plus qu'un ange. Le Seigneur, c'est le Fils de Dieu. Il est venu là où il y avait la misère, là où il y avait les difficultés. Et nous nous rappelons que dans ces 5 colonnes qui sont là, ce sont les 5 continents, ce sont le monde. Dans le monde, il y a tellement de gens délaissés, tellement de gens qui sont malades, des gens qui sont aveugles, des gens qui sont boiteux, paralytiques. Et Dieu nous donne de pouvoir simplement, avec sa grâce, de voir ces personnes eh bien être relevées, d'être bénies. Est-ce que vous voulez pas voir ces choses-là? Amen. Chacun de nous, on bénit le Seigneur pour cela. Et nous avons entendu ce témoignage de Mélanie. Mais je peux vous dire aussi le témoignage de ma propre petite fille, qui était atteinte aussi d'un problème. C'était cette maladie qu'on appelle la maladie de West. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose qui était incurable. Et voici qu'on a prié pour elle. Elle avait des crises d'épilepsie toute petite. À l'âge de 6 mois, ça s'est déclaré. Et voici que on a prié pour elle. On a prié et le Seigneur Jésus est intervenu. Je peux vous dire que aujourd'hui, elle a 17 ans et c'est une belle plante. Hein, alléluia. C'est normal, les nôtres, ils sont toujours plus beaux. Hein, vous avez remarqué, hein, cette petite fille, c'est la première. Elle est formidable. Elle appartient au Seigneur et c'est formidable ce que Dieu fait, ce que Dieu est capable de faire. Je crois que déjà dans notre esprit, on a besoin de dire, Seigneur, mais si tu nous as donné l'Église, si tu nous as donné, Seigneur, d'être ensemble, eh bien, nous voulons aussi voir, eh bien, mon Dieu, ta grâce au milieu de nous. Nous voulons prendre du temps dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne et la prière. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, dans ces 5 continents. Jésus qui est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Et non, n'oublions jamais pour nos iniquités et le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. On peut le dire fort ce matin. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous croyez à la guérison? Alléluia. Le Dieu, et c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui sauve. Mais nous avons besoin. Parce que la guérison, c'est un moyen aussi que Dieu nous donne pour nous amener à croire. Alors, nous bénissons Dieu de ce que beaucoup de gens entendent les mouvements, mais nous nous attendons et nous bénissons Dieu pour le mouvement de l'Esprit. Alléluia. Le mouvement, eh bien, de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux et de celles qui seront sauvés parce que nous croyons que Dieu veut se servir aussi de chacun de nous. Éliashib, et il nous dit, le souverain sacrificateur se leva et Jésus, notre sacrificateur, et ses frères, eh bien, nous nous levons aussi, alléluia. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, nous sommes le peuple de sacrificateurs, vous le lirez hein, dans Hébreux 2:17 et 1 Pierre 2:9 et 10, et nous bénissons Dieu de ce que nous voulons, eh bien, dire, Seigneur, sers-toi de nous. Dieu s'est servi, eh bien, d'un homme qui servait, eh bien, aux tables, il servait le roi, c'était pas grand-chose, et vous savez, quelquefois, on se dénigre. Mais non, j'ai pas reçu grand-chose. Moi, je laisse faire les autres. Mais prenons notre place, frères et sœurs. Dieu veut se servir de chacun de nous. Il veut se servir de toi. Il veut se servir, eh bien, de jeunes, de moins jeunes. Nous sommes tous utiles entre les mains de Dieu. Vous le croyez, cela? Moi, je le crois de tout mon cœur. Je crois de toute mon âme que Dieu, c'est le Dieu, eh bien, qui construit et qui a besoin de toutes les pierres parce que nous sommes sauvés par sa grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et puis, dans le verset 3, il nous est dit, les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Et dans cette porte, eh bien, on peut voir que ces pêcheurs, quand ils rentraient de la pêche. Il y avait des choses, eh bien, dans les paniers, des choses merveilleuses. Et il m'est venu dans mon cœur, eh bien, de rappeler que de cette porte, eh bien, là, eh bien, est sorti encore quelqu'un quand Jésus est arrivé. Et il y avait un homme qui s'appelait Simon-Pierre, que vous connaissez dans l'Écriture. Et cet homme, eh bien, la parole de Dieu nous dit, quand il a entendu le message du Seigneur, dans Luc chapitre 5, verset 10, et quand il a entendu, eh bien, il a dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit ? Il lui a dit, « Mais Pierre, ne crains point, parce que désormais tu seras pécheur d'hommes. » Voyez ? Et j'aimerais vous dire, je ne dénigre pas les pêcheurs, hein, ceux qui ont le métier de la pêche. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Pierre, alors qu'il avait l'odeur du poisson, il va avoir la bonne odeur de Christ, alléluia. La bonne odeur de Christ. Hein, je dis que je ne dénigre pas ceux qui sentent le poisson, ceux qui vivent de la pêche, mais vous savez, avoir la bonne odeur de Christ, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et cet homme, il va recevoir, eh bien, cela. Hein, ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, on va le lire, 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 14, il nous est dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur du poisson. Non, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. La bonne odeur de Christ. Merci Seigneur. Et je crois que cela, il n'y a que Dieu qui puisse le faire et qui a pu le faire en chacun de nous. Et vous savez que le poisson, entre guillemets, c'est le symbole, eh bien, des premiers chrétiens qui étaient persécutés. Et vous savez, on m'avait beau expliquer la signification, et là je l'ai cherché et je l'ai trouvé, hein, pour ne pas qu'on dise bien n'importe quoi. Et le symbole des chrétiens, donc, c'est ce signe. Hein, vous savez qu'il y a des frères et sœurs qui ont des poissons sur les voitures. C'est pas mal. Hein, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est au moins mauvais. Hein, mais quand on regarde à l'origine, on s'aperçoit que, eh bien, c'était pour se reconnaître dans la persécution. Eh bien, ils avaient mis ce signe, le signe du poisson. En grec, c'est le mot ichitus ou ichitis, comme vous voudrez, et les cinq lettres grecques qui correspondent à la première lettre du Sauveur. I, c'est Issus, Jésus. CH, Christ, Christos, Christ. TH, Théou, Dieu. Y, c'est Ius, Fils. S, Soter, Sauveur. Qui se rassemblent dans la déclaration Jésus-Christ, Fils du Dieu, Sauveur. Amen. C'est merveilleux cela, hein? Alléluia. Voilà, au moins je vous aurai appris quelque chose ce matin, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, et c'est quand même important de pouvoir dire cela. Si je dis cela, c'est que celui qui accepte le signe du poisson, mais il accepte surtout, eh bien, d'être marqué du sceau, eh bien, du Saint-Esprit que le Seigneur a fait de nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à ce Seigneur. Il témoigne qu'il a découvert Jésus-Christ et qu'il croit en lui. Il affirme son appartenance. Il reconnaît Christ, son Sauveur. C'est ce que nos bien-aimés vont faire cet après-midi, publiquement. Mais ils l'ont déjà fait. Hein, depuis le jour où ils ont rencontré le Seigneur. Plutôt, depuis le jour où le Seigneur les a rencontrés. Alléluia. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est merveilleux. Et vous savez, ils suivent maintenant l'enseignement du Seigneur. Et je crois que c'est important ce qu'a dit tout à l'heure le pasteur, donc votre pasteur Laurent. Nous devons toujours avoir cet enseignement. Nous devons toujours lire cette parole. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Avant de connaître le Seigneur, je ne lisais jamais. Je n'avais pas ni les bandes dessinées, ni les bandes, tout ce que vous voudrez. Je n'aimais pas lire. J'aimais pas lire. Mais le jour où vraiment Dieu a mis dans mon cœur, eh bien vraiment de pouvoir faire la paix avec lui, une alliance avec lui, Dieu m'a donné ce désir de lire la parole de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. Si un jour je ne lis pas la parole de Dieu, je me sens mal. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Vous voyez? Il y en a qui arrivent à s'en passer, c'est comme un dommage, mais je crois que la parole de Dieu, et on a besoin aussi de cet enseignement, et dans ce lieu, il y a un enseignement. On a besoin des deux. On a besoin, eh bien, de pouvoir avoir cette communion avec Dieu, personnelle, et l'avoir avec l'Église. L'Église, et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Pour revenir un peu au poisson, vous savez, lorsque nous étions dans la région de Nice, nous étions dans un petit village qui s'appelait Carrosse, qui s'appelle toujours Carrosse. Et je me souviens qu'un jeune était venu à l'église et voici que lui, il a adopté un jour. Il a dit, voilà, moi j'ai trouvé de mettre sur ma voiture un poisson. Mais j'ai dit, c'est bien, c'est pas mal. J'ai dit seulement, tu sais, il faut quand même comprendre ce que tu fais lorsque tu mets un poisson. Il m'a dit, oh non, mais ça fait beau, c'est beau. Voilà, je vous dis pas, il avait mis un poisson comme ça. Alors on le voyait de loin. Le problème, c'est qu'il n'avait pas un témoignage agréable dans le village où il était. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, il vaut mieux pas que tu mettes ce poisson, parce que si un jour on te demande pourquoi tu l'as mis, tu risques d'avoir honte. Et il a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est vrai. Et ce que je voudrais vous dire, c'est, quelquefois, on voudrait peut-être afficher certaines choses. Mais je crois qu'il vaut mieux les vivre. Alors, je vous ai déjà dit, je suis pas contre ceux qui mettent le poisson. D'ailleurs, il y en a encore à la librairie, vous pouvez en prendre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je veux dire par là, c'est que nous, ce que nous disons, eh bien, ça doit être mieux de ce que nous affichons. C'est vrai ou pas? Et c'est ce que nous avons besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde toute sa grâce. Et puis, je voudrais terminer avec cette dernière porte. C'est dans Néhémie, chapitre 3, verset 6. La vieille porte avait-elle résisté au temps? Est-ce qu'il restait une moitié de porte? Ils appelaient toujours la vieille porte. Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est aux événements, vous voyez, qui étaient là, de la destruction de la ville de Jérusalem? Vous voyez, et dans le mot vieille porte, on peut dire le mot vieux, c'est la famille d'une racine wet, année. En grec, c'est os. Et les années ont fait que, vous voyez, on en reparle encore de cette vieille porte. Et je crois que nous devons jamais oublier que ce que nous avons reçu il y a bien longtemps, c'est peut-être ancien, c'est peut-être entre guillemets vieux, mais l'évangile, la bonne nouvelle, la porte, elle est toujours d'un accès toujours grand ouvert. Et nous bénissons Dieu de ce que nous pouvons dire à n'importe quel âge, que cette porte, elle est toujours nouvelle. Parce que dans notre cœur, nous l'avons dit, Dieu nous reconstruit, Dieu nous renouvelle, Dieu nous fait du bien. Vous savez, j'aimerais vous donner une petite anecdote qui est vraie. Hein, c'est au milieu des ruines, après la dernière guerre mondiale, il y a des personnes se sont arrêtées, voyez, sur une maison qui était là, et sur l'encadrement de cette maison détruite, c'était inscrit gravé à l'intérieur, il y avait dans l'encadrement au-dessus de la porte de l'entrée qui est resté debout, le propriétaire avait gravé, eh bien, un texte biblique, c'est dans 2 Corinthiens 5:1. Il dit ceci, nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Vous voyez, il y avait quelque chose de merveilleux là. Tout était détruit et là, il y avait, eh bien, cette inscription. Tout cela, je vous dis cela parce que, vous savez, quelquefois on dit, mais c'est fini, vous voyez, tout est détruit, il n'y a rien qui pourra se refaire, il n'y a rien qui pourra être construit, Il n'y a rien qui pourrait être, eh bien, là, dans la longueur du temps. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui travaillent dans la restauration des maisons. Et quand ils arrivent, quand ils voient le délabrement, quand ils voient les ruines, ils voient déjà ce qu'elle peut devenir. Voyez? Et je crois que c'est la vision que Dieu veut nous donner. C'est la vision qu'il a donnée à Néhémie. Et il faut dire, oh là là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais il faut regarder plus loin. Et la transformation d'une habitation délabrée, elle peut devenir quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. Et tout le monde n'a pas la capacité de voir au-delà des tas de ruines. Il n'y a que le chrétien, ce chrétien engagé, ce chrétien qui, comme Néhémie, peut dire, Seigneur, eh bien nous croyons, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, des choses magnifiques. Et nous savons qu'ici-bas, eh bien, nous avons, tout sera, eh bien, enlevé, mais dans le ciel, il y a quelque chose qui nous a été préparé, quelque chose que Dieu a préparé. Jésus a pu dire, je m'en vais vous préparer une place. Alors il y en a qui peuvent dire, oh, ce sera comme ça, ce sera comme ci, mais c'est pas écrit. Mais ce que nous savons, c'est que l'essentiel, c'est que nous soyons avec le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, ce que Dieu prépare, c'est bon. Alléluia. Ce que Dieu nous a préparé, c'est magnifique. Et nous bénissons Dieu, eh bien, pour cela. Alors, tout le monde n'a pas la capacité, mais le chrétien et chacun de nous, nous voulons avoir dans notre cœur cette vision. Seigneur, je veux avoir cette vision de mon église, l'église de Grolier. Seigneur, je veux avoir cette vision. Vous savez, quelquefois on reste bloqué à l'ancienne porte. Oui, c'était comme ça, c'était beau, c'était formidable. Maintenant, eh bien, ça va moins bien. Mais regardons ce que cela peut devenir. Alléluia. Et quand je vous vois, eh bien, je dis merci Seigneur. C'est une belle assemblée. Alléluia. Une belle assemblée. Et je peux vous dire que le Seigneur est en train de travailler. Il est en train de construire. En train de faire des choses magnifiques. Et c'est pour cela que d'être capable de percevoir l'essentiel au-delà des vestiges, au-delà des échecs ou d'événements douloureux, d'une véritable restauration. Et ça, c'est Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela, qui puisse faire ces choses. Il y a une différence entre voir ce qui est dans l'état et percevoir le devenir par la foi. Le devenir, parce que le Seigneur y voit plus loin. Ayons cette vision de Dieu. Cette vision du Seigneur. Seigneur, je veux pas regarder peut-être à ce que je vois, mais je veux voir plus loin. Je veux être là. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être là avec mes frères et sœurs, avec l'église, avec mon pasteur, ma pastoresse. Je veux être là, Seigneur. Je veux être là. Et je veux bénir. Seigneur, je veux bénir. Il y a là où le commandé des mortels ne voit que des vies détruites. Le Seigneur, il perçoit des vies restaurées. Il est le Seigneur des cœurs accablés, des vies désolées, des cœurs, eh bien, qui ont besoin tout simplement, eh bien, de reprendre courage. Et c'est exactement ce qu'a fait Néhémie. Il n'a pas fait des choses extraordinaires, mais parce qu'il était envoyé de Dieu, et parce que Dieu l'a envoyé, et c'est là qu'il va y avoir quelque chose de magnifique. Est-ce que vous le savez? Et même si on le sait, peut-être qu'on le sait dans notre tête, dans notre esprit, mais est-ce que nous savons que Dieu, c'est un bâtisseur? Amen. Amen. Dieu, c'est un bâtisseur. Amen. Dieu, il bâtit. Dieu ne détruit pas, il bâtit. Alléluia. Amen. Il bâtit avec ta vie, il veut bâtir avec ta famille. Il veut bâtir avec la famille de Dieu. C'est un bâtisseur, le Seigneur. C'est un bâtisseur. Alléluia. Merci, Jésus. Aucune vie n'est trop anéantie pour qu'il ne puisse la restaurer. Moi, je le crois. Je crois de tout mon cœur. On a vu des choses magnifiques, des vies, eh bien, qui semblaient tellement loin, tellement détruites. On a même connu dans notre ministère des personnes qui ont vu, eh bien, leur famille, eh bien, mettre le beau-frère a tué la maman. Il y a bien des années de cela. Et voici qu'ils sont venus. Ils étaient là, ils étaient détruits. Il a dit, dès qu'ils sortent de prison, je vais les tuer. Et c'était un gendarme. J'ai dit, eh bien, bravo, monsieur, hein. J'ai dit, vous êtes un gendarme et vous parlez comme ça. Il dit, mais vous savez pas ce qu'ils nous ont fait. J'ai dit, oui. Alors moi j'étais là et je parlais avec eux, je dis mais Seigneur, qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Et dans mon cœur, le Seigneur a mis une parole. Une parole vraiment, vraiment je me suis retourné comme ça, dit, Seigneur, tu es bon, hein. J'ai une parole de Dieu. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes là. Mais je lui ai dit, votre maman. Et ma maman, c'était une chrétienne. C'était une chrétienne et elle était engagée. Et je lui ai dit, mais dites-moi, est-ce que votre maman, elle aurait pardonné à votre beau-frère? Tout de suite, ils ont dit oui. Oui, ma mère, elle aurait pardonné. J'ai dit, voyez, vous êtes en train de vous appliquer une double peine. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit oui. Parce que voyez, votre maman, elle est sauvée. Et vous, si vous mourrez, d'abord, premièrement, sans rencontrer le Seigneur, sans faire la paix avec lui, la deuxième chose, c'est que vous ne verrez jamais votre maman, parce que vous irez du côté de ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors ils ont été touchés là, dans leur cœur. Et je peux vous dire que le jour où ils se sont engagés dans les eaux du baptême, moi je n'aurais pas dit de pouvoir simplement raconter, mais ils m'ont dit, il y a des choses, il n'y a que Dieu qui puisse faire en nous cette reconstruction. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et vous savez, si Dieu n'intervient pas dans certaines circonstances, c'est parce que finalement, c'est nous qui cherchons la solution qui nous arrange. Laissons le Seigneur bâtir. Laissons le Seigneur reconstruire. Lui, il le fait mieux que nous. Il le fait mieux que nous. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et je crois que nous avons besoin, justement, de restauration. Dieu restaure notre esprit et nos pensées. Il dispose notre cœur afin de percevoir l'étendue, du rétablissement, de la mort à la vie. Vous savez, les gens parlent de la vie à la mort. Mais nous bénissons Dieu de ce que nous parlons. Nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, mais de la mort à la vie, par la puissance de la restauration de notre Seigneur. Il est le Créateur. Une parole de lui et une pierre peut servir à bâtir, nous l'avons dit. Une parole de lui et une pierre devient vivante. Alléluia. Vous le lirez dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Sont devenues ces pierres vivantes. Merci mon Dieu. Et nous l'avons lu, et je termine avec cela, c'est que Néhémie, au chapitre 2, verset 17 et 18, les murailles de la ville de Jérusalem étaient détruites. Le fardeau de Néhémie pour reconstruire la muraille et ses portes, les Juifs vivaient dans la détresse et dans la captivité et dans la désolation. Et ce ne sont pas les événements qui causent l'abattement, mais plutôt la manière de les vivre. La manière de les vivre. Et nous savons, on sait qu'on est attaqué de tous les côtés, on le sait. Mais quand ça nous arrive, on dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Mais parce que tu appartiens au Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Mais rappelle-toi que le Seigneur, il reste en toi, il demeure en toi. La bénédiction, elle est là. Et quand nous vivons certaines choses, nous devons simplement dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, c'est pas tout simplement pour dire, mais voilà, tu as fait quelque chose, alors Dieu, il ne te loupe pas. J'espère qu'on est passé par là. Je crois qu'on a été plus loin que ces choses-là. La religion des autres, tu sais, au virage, là, il t'attend, le Dieu. Il t'attend, il te loupe pas. On est passé là-dessus. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Nous le bénissons, donc toute la gloire. Alors, je le répète, ce ne sont pas les événements qui causent l'abattement, mais plutôt la manière de les vivre. Après que Néhémie eut fini de parler au peuple, la situation avait-elle évolué? Non. Après qu'il a parlé, ça n'a pas évolué. Mais ce que j'aimerais retenir, et ce que j'ai reçu, c'est que les murailles, d'abord, étaient toujours effondrées. Alors pourquoi les hommes retrouvent-ils l'espoir, l'espérance? Pourquoi? Parce que Néhémie, il portait un message de rétablissement. Vous voyez? Un message de rétablissement. Un message de reconstruction. Et ça, c'est formidable. Vous voyez, vous rencontrez toujours des gens qui vous diront toujours les choses qui ne vont pas. Mais nous voulons parler des choses qui vont. Alléluia. Retenir ce qui va. Alléluia. C'est ça la restauration. C'est pas toujours, oh là là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais non, Néhémie, il est venu. Il est venu pour parler d'un message de rétablissement. Alléluia. Et Néhémie modifia la vision des hommes désespérés. Vous voyez, ça c'est formidable cela. Vous voyez, quand on peut modifier, et il n'y a que le Seigneur qui puisse le faire dans les cœurs, de modifier la vision des hommes, eh bien, qui sont désespérés, qui sont abattus. Et le sentiment face à un événement est toujours la conséquence d'une perception ou d'une pure émotion. Vous voyez, il y a des émotions par lesquelles nous vivons. Quand ça va pas, on se met à pleurer. Je comprends pas, Seigneur. Et ce sont des émotions. Mais j'aimerais vous dire aussi que il y a de bonnes émotions. Il y a ce que Dieu met en nous. Et nous voulons dire, Seigneur, eh bien, que nous puissions ne pas rester, excusez-moi de l'expression, de marbre. Mais parce que nous avons une vie chrétienne qui est faite avec des pleurs, avec des joies, avec, je dirais, avec nos tripes, et nous sommes là, et nous croyons, eh bien, que quand un frère est rétabli, quand nous avons entendu ce matin qu'un couple, eh bien, ils ont fait ces fiançailles, eh bien, on se réjouit, alléluia. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et on pleure avec ceux qui pleurent, alléluia. Et ça, c'est formidable. Nous bénissons Dieu. Et là, j'aimerais vous donner simplement ceci. Un événement, c'est égal à une perception. Cette perception, eh bien, nous conduit à un sentiment. Un sentiment. Et avant le discours de Néhémie, les murailles de Jérusalem étaient détruites. Ça, c'était l'événement qui était là. Et le peuple ne voyait que des ruines. C'était la perception. Il percevait cela. Et puis la vision des hommes fut bouleversée. Et le peuple avait pris conscience que l'Esprit de Dieu œuvrait et ouvrait une perspective de rétablissement avec eux. Alléluia. C'est important cela. C'est pas de dire, eh bien le Seigneur, il va rétablir avec les autres. Mais Dieu compte sur toi. Alléluia. On est ensemble. C'est ça qui est important. J'ai du prix aux yeux de Dieu, mais on a du prix aux yeux de mes frères et sœurs et de l'Église. Soyez-en convaincus de cela. On a besoin de cela. Ce qui déclencha un sentiment de foi. Un sentiment de foi. Merci Seigneur, de courage. Un sentiment de joie. Il y a de la joie de le servir. Il y a de la joie de dire, Seigneur, bien, je peux faire le nettoyage dans la maison, je peux aussi bien m'occuper d'autre chose. C'est servir Dieu, ça. Des choses pratiques. Mais c'est la joie. L'analyse d'une situation préconçue est souvent erronée. C'est souvent erroné. Par une perception négative qui altère notre jugement. Et je dirais que l'homme, et je m'y mets avec vous, hein, on est tous pareils, on exagère quelquefois la réalité, on exagère, on va au-delà. Mais un sentiment, c'est un sentiment d'impuissance et de découragement, affecte le cœur et les pensées, et anéantit tout espoir. Mais c'est par la foi que nous bâtissons, c'est par la foi que nous allons de l'avant. Et vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans Jean chapitre 2, verset 1 à 19, Jésus va chasser les vendeurs du temple. Il va les chasser. Parce que le temple, c'était tout, sauf la maison de Dieu. Et il les chassa tous du temple. Le verset 15, vous le lirez. Il dira, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Maison de trafic. Et les Juifs, prenant la parole et dire, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ils ont encore mieux, ils ont encore moins compris. Mais nous, on peut comprendre aujourd'hui. On peut comprendre que le Seigneur, eh bien, il va donner une prophétie extraordinaire. cette prophétie que Jésus, mourant sur la croix, eh bien, c'est le temple de son corps qu'il va donner. Il va donner sa vie. Et il fut détruit pour 3 jours. Et après, il ressuscita des morts. Et par la mort sur la croix, il va détruire le péché, alléluia, même si aujourd'hui encore le péché, mais il détruit si quelqu'un vient à lui, alléluia, il détruit la maladie, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais il la détruit lorsque, eh bien, nous voyons sa main dans les corps qui ont besoin de lui, alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Amen, gloire à Dieu, il détruit la mort, merci Seigneur, la mort bien sûr, si le Seigneur ne revient pas, on va passer au travers de la mort, mais il a détruit la mort, on bénit le Seigneur pour cela. Il a détruit l'inimitié. Merci Seigneur. Éphésiens 2, voilà, par la restauration, il a détruit ce mur de séparation. Merci Seigneur. Il a anéanti, il a renversé le pouvoir de l'ennemi. Et nous bénissons le Seigneur. Et c'est pour cela, eh bien, le Seigneur a pu dire à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ce matin, le Seigneur nous dit, eh bien, toi, Laurent, toi, Jacqueline, toi, eh bien, que tu t'appelles Joséphine, je sais pas pourquoi Joséphine, ou Antoinette, ou peut-être, qui que nous soyons, le Seigneur te dit, mais tu es Pierre, et que sur cette pierre, eh bien, je bâtis mon Église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point, contre elle, Dieu a rétabli, il a rétabli quelque chose de magnifique. Nous disions tout à l'heure au commencement que dans ces murailles, bien il fallait des portes. Mais la porte, Jésus, c'est cette porte qui nous a donné de rentrer dans l'Église universelle, d'abord l'Église locale. Mais nous bénissons Dieu de ce que l'Église du Seigneur, elle est triomphante. L'Église du Seigneur, elle est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Mais nous l'avons dit que l'Évangile, nous avons parlé de ces portes, mais dans cette vieille porte, eh bien, je crois qu'elle porte encore du fruit. Il y a des hommes et des femmes, eh bien, qui prendront ce nouveau départ comme nous l'avons pris. Et nous l'avons dit, nous sommes toujours en construction, parce que nous savons qu'un jour, nous serons avec lui. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus toutes ces choses-là, mais nous serons toujours auprès du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que vraiment chacun de nous, nous puissions réaliser la grâce que nous avons de pouvoir dire, Seigneur, eh bien, je t'appartiens. Seigneur, merci pour la famille de Dieu parce qu'elle prie pour moi, parce que je peux me confier et je sais qu'il n'y a pas de jugement, mais il y a ta grâce, il y a ta fidélité. Que le Seigneur nous bénisse. Voulez-vous qu'on se recueille quelques instants et que nous puissions prier maintenant? Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.
Alléluia.
Seigneur, combien nous sommes, Seigneur, de ceux et de celles qui voulons bâtir. Seigneur, nous sommes en construction, c'est vrai. C'est vrai, tu connais, Seigneur mon Dieu, notre caractère, tu connais notre façon d'être. Mais Seigneur, nous avons quelque chose en commun que personne ne pourra nous enlever, c'est ton esprit. C'est ton esprit, Seigneur, d'unité. Cet esprit, Seigneur mon Dieu, que tu as mis en nous, Seigneur, et nous voulons pas nous séparer. Seigneur mon Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, nous voulons au contraire, Seigneur, bâtir, nous voulons regarder, Seigneur mon Dieu, à ce que, non pas à ce que nous sommes, mais à ce que tu es, parce que toi, tu es le bâtisseur, toi, tu es celui qui bâtit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui renouvelle. Alors ce matin, peut-être qu'au milieu de nous, peut-être des frères et sœurs ont été détruits par certaines paroles. Peut-être que même il y en a d'autres qui ne sont pas venus, Seigneur mon Dieu, ce matin. Peut-être que d'autres ne sont pas revenus de certaines choses. Alors nous te prions parce que ton Église, Seigneur, elle a besoin de pierres vivantes. Ton Église, elle a besoin de restauration. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, Seigneur, nous sommes tous, Seigneur, dans la même enseigne. Nous avons besoin de toi. Nous savons que les temps sont courts où tu reviens. Seigneur, Seigneur, nous voulons parler de toi, nous voulons arrêter peut-être de parler des choses qui ne vont pas, mais nous voulons parler des choses belles, des choses que tu fais, Seigneur. Et cet après-midi encore, on va se réjouir, Seigneur, de voir, Seigneur mon Dieu, ces bien-aimés s'engager avec toi publiquement, que des âmes nouvelles viennent, que ces futures pierres, Seigneur mon Dieu, puissent être édifiées, puissent être, mon Dieu, être, eh bien, cette église, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Alors nous te remercions, nous te louons, parce que toi, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur. Tu es passé par la mort, mais tu es ressuscité. Nous nous adressons ce matin à un Dieu vivant, à un Dieu, Seigneur mon Dieu, qui nous aime, un Seigneur qui est prêt, Seigneur mon Dieu, encore à agir dans les familles, agir dans les consciences, agir, Seigneur, dans le milieu de nous. Alors merci de bénir ton serviteur Laurent, de bénir notre sœur Pascale, de les soutenir, Seigneur, de bénir les anciens, de bénir, Seigneur, les jeunes, de bénir tous ceux, Seigneur mon Dieu, eh bien, qui ont décidé, Seigneur mon Dieu, de construire, d'aller de l'avant. Alors Seigneur, merci mon Dieu, parce que nous croyons que toute l'Église, Seigneur, maintenant, elle reprend courage, elle reprend espérance, parce que Seigneur, c'est ta parole, c'est toi qui nous donne, Seigneur, de pouvoir nous relever, de pouvoir dire, Seigneur, merci pour cette ville, parce que Seigneur, c'est toi et toi seul qui veux la sauver, tu veux la bénir, Seigneur, et nous t'en remercions pour tous les villages autour, pour toutes ces églises établies, et nous te bénissons, Seigneur, nous t'en rendons grâce, dans le nom de Jésus, et qu'elle te revienne toute la gloire. Amen, Jésus, amen. Alléluia. Amen.